Messieurs, vous êtes chauds?
Bien alors, ça boum.
Ça boum.
Ça boum, la matinale de Radio Boomerang en collaboration avec 600 productions.
Ça boum.
Ça boum, toi? Ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait, t'as vu la gueule que t'as. Ça peut pas toujours boomer, hein, espèce de boumeuse.
Ça boum.
Pas la peine de faire ton intéressante parce que tu passes à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 8h06 et bienvenue dans la matinale de Radio Boomerang, ça boom, en collaboration avec 600 productions. On espère que vous allez super bien ce matin. En studio, nous avons donc moi-même et Madame Solana Grèce. Comment vas-tu, Solana?
Je vais.
Non mais au moins on est direct,
on est honnête.
Moi j'ai pas dormi de la nuit donc on se sent.
Voilà, moi j'ai vomi hier soir en regardant une vidéo qui portait sur une fois de plus comment le corps des femmes est maltraité par le corps médical. Voilà, action réaction et puis après j'ai très mal dormi.
Voilà, donc on est sur une émission où on est KO, c'est le cas de le dire. Après pour aussi il y a tout le week-end du festival qui redescend. Je pense, ça joue. Hein.
Ouais, tout à fait. Et puis c'est sans transition avec le travail pour certains d'entre nous.
Tout à fait.
Donc c'est vrai que 3 jours de festival qui se terminent le dimanche soir, qui a nécessité 3 jours de montage et qui s'enchaîne directement sur la semaine de taf. Bon voilà, j'ai pleuré au bureau quoi.
ce qui explique aussi qu'on soit que deux au studio d'ailleurs.
Oui, tout à fait. On a une soldate qui a disparu.
Voilà.
Je crois qu'elle travaille.
Enfin, même deux.
De toute façon, ce matin.
Deux, mais.
Oui, mais voilà. C'est vrai que Léa a pris congé il y a quelques temps, ouais. Donc c'est voilà, je voulais pas compter.
Voilà, comme à l'ancienne finalement. Il y a des moments comme ça où Solana et moi, malgré le vent, la tempête, et ben on est là quand même.
Ah non, mais c'est clair. Envers et contre tous, on est là. On est là pour vous parler de choses super sympas, vous dire qu'on a mal dormi et qu'il y a plein de choses horribles qui se passent encore dans le monde.
Mais bon, voilà. nous on fait pas dans le faux, on fait pas dans le ça va super bien ce matin.
Ah ouais, non. Non, on n'est pas là-dessus. Pas. La météo doit mouiller, elle dit qu'elle ne sait pas encore ce qu'il va faire.
Ouais, là, c'est un petit peu un entre-deux, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Mais on va essayer de faire en sorte de se remonter, de s'auto-remonter le moral et de vous auto-remonter le moral avec cette émission. Enfin, en tout cas, avec de la musique
maximum.
Et on fait notre maximum. Alors voilà, plein de choses qui nous attendent aujourd'hui, surtout de la musique, comme d'hab. Et un bon début de matinée. Donc merci d'être avec nous ce matin. Voilà.
On va commencer avec le reportage.
Ouais, moi je pense qu'on peut commencer par s'écouter une petite musique.
Ah, j'ai mis aussi avec de la musique.
J'ai mis Nell en plus parce que je suis encore la tête dans le festival.
Voilà. Nell Widmer.
Exactement, Nell Widmer. Donc, le temps que je le rentre sur l'ordi aussi parce que les problèmes techniques, ça continue. Hein, mais
ah bah, on change pas une équipe qui fait match
exactement.
Nul.
Exactement.
Hein. Un grand homme a dit ça.
Je sais pas qui c'est, mais.
C'est Orelsan.
Ah ouais?
Ouais.
Ben, merci à lui en tout cas.
Oui, on ne le remercie pas pour toutes ses lyrics, mais celle-ci, oui.
Celle-ci, elle est sympa. du coup, on va s'écouter donc La Flemme de Nell Widmer. Ça rentre un peu dans le mood de ce
ouais,
matin.
Ouais, c'est hein. bien pour se réveiller.
On est
cool.
Un petit peu à deux doigts. Et puis, juste après, on s'écoutera donc un reportage qui a été réalisé par Banquise FM et qui s'appelle Les conseils de l'association de Prévart pour se prémunir du cancer du sein. On est encore dans le mois d'octobre rose, donc je pense que c'est assez opportun de continuer à parler du cancer du sein. Et puis on se retrouvera juste après pour le reste des chroniques et pour un super début de matinée, j'espère. Alors à tout de suite et bonne écoute.
J'ai la flemme de penser à toi, oui j'ai la flemme d'être comme toi, j'ai la flemme tu t'en souviendras, oui j'ai la flemme et puis c'est comme ça, j'ai pas envie de revivre ce que tu m'as fait subir, mon canapé c'est mieux que ton lit loin de tes délires, dis-moi ce que tu cherches. T'inquiète pas, je vois que t'es pas bien. J'ai jamais vu de nuit aussi critique, il est temps que tout se finisse. J'ai la flemme de penser à toi, oui j'ai la flemme d'être comme toi, j'ai la flemme tu t'en souviendras. c'est comme ça. Arrête de t'accrocher à moi, tu sais que je supporte pas. Je te répète, j'ai le cœur sombre, si tu me cherches trop, tu vas tomber bas. Toujours en train de planer, t'as jamais vraiment été là. Qu'on se le dise ou pas, tu sais, y'avait pas que toi. Penses-tu vraiment que je suis sans sentiment? Hier je te disais que je t'aimais et maintenant je vais faire croire que tu m'as toujours blessé. Je t'avais prévenu que toi et moi c'est baisé. Pas de retour en arrière, je suis impardonnable et là. J'ai la flemme de penser à toi. Oui j'ai la flemme d'être comme toi. J'ai la flemme tu t'en souviendras. Oui j'ai la flemme et puis c'est comme ça. J'ai la flemme. Penses-tu vraiment que je suis sans sentiment? La flemme. Hier je te disais que je t'aimais et maintenant la flemme. J'ai fait croire que tu m'as toujours blessé. J'avais prévenu de laisser baiser. Pas de retour en arrière, je suis impardonnable et là. J'ai la flemme. La flemme de penser à toi. Oui j'ai la flemme. La flemme d'être comme toi. J'ai la flemme. La flemme tu t'en souviendras. Oui j'ai la flemme. La flemme et puis c'est comme ça.
La flemme.
Non mais là j'ai la flemme là. C'est la flemme genre de tout.
La flemme. La flemme.
Non mais là j'ai trop la flemme.
La flemme.
Le mois d'octobre est devenu celui de la mobilisation nationale contre le cancer du sein. De nombreuses communes et associations s'associent pour Octobre Rose afin d'encourager tout un chacun à se faire dépister. Certaines associations le font toute l'année, c'est le cas de Prévart pour Prévention Artois, qui propose également de nombreuses formes d'aide aux personnes atteintes de cancer sur le territoire de l'Artois et qui s'associe à de nombreux événements ce mois d'octobre. On évoque l'importance du dépistage avec Thomas Laurent, directeur de l'association, et Laetitia Louvet, assistante de coordination de son espace ressources cancer, qui rappelle d'abord le principal public concerné.
Les personnes concernées, ce sont les personnes, donc les femmes, âgées de 50 à 74 ans. On parle de prévention dès le plus jeune âge, en fait, hein, maintenant. Voilà. Mais au niveau des dépistages, les personnes reçoivent un courrier, en fait, chez elles de la CRCDC, anciennement Opaline chez elles, qui les incite à faire le dépistage. Donc les personnes concernées, les 50 à 74 ans.
La tranche 50 à 74 ans, elle a été établie justement parce que l'apparition de cancer était plus fréquente chez ces populations-là, hein, chez les femmes de 50 à 74 ans, et puis une fréquence aussi de tous les deux ans qui implique aussi, parce que c'est pas forcément anodin hein, de passer une mammographie, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, qui peut aussi soumettre le corps à un rayon X, forcément. Et donc l'idée, c'est que à partir de 50 ans et tous les deux ans, le fait de passer ce dépistage a plus de bénéfices pour la santé que de risques.
Comment se passe justement ce dépistage ? À quoi ça ressemble ?
Sur le terrain, nous entendons beaucoup de choses, ça fait mal. Il y a aussi ce volet un peu en pudeur aussi, hein, qu'il faut prendre en compte. Se déshabiller, la peur, avoir peur du résultat. Tout ça, c'est aussi notre travail au quotidien, là, tout le mois et tout le long de l'année. C'est lever certains freins. Effectivement, apparemment, c'est un examen qui peut faire mal, mais que la douleur disparaît immédiatement. La mammographie est vraiment primordial en fait hein, pour détecter s'il y a une anomalie ou un cancer, le détecter au plus tôt. On évoque souvent le cancer égale mort, une maladie grave ou autre. Aujourd'hui, il faut tout de même savoir que sur 1000 personnes dépistées, 910 personnes n'ont aucune anomalie en fait. Aucune anomalie. Donc ça veut dire que pour le reste, pour les 90 femmes, c'est qu'il y a une anomalie détectée. Une anomalie ne veut pas dire que c'est un cancer. Donc, plus on va échanger, plus on va sensibiliser, informer au dépistage organisé, et plus les personnes iront, et plus on fera reculer la maladie, en fait. Si aujourd'hui le taux de dépistage est de 50% environ, si nous arrivions aujourd'hui à 70%, la maladie, on la ferait reculer.
Oui, d'autant qu'au plus la maladie est détectée tard, au plus la personne risque des complications. Est-ce qu'il y a une durée de développement de la maladie à partir de laquelle un dépistage trop tardif pourrait vraiment poser problème?
À n'importe quel moment du stade de la maladie, on peut vaincre la maladie, en fait. Tout dépendra de la personne, des traitements. Enfin, la personne peut réagir différemment au traitement qu'on va lui prescrire. Enfin, voilà, nous, on travaille tous les deux, donc mon directeur et moi-même, au sein d'un espace ressources cancer. C'est pas parce qu'une personne a été détectée positive à un cancer qu'elle n'aura plus d'objectif et qu'il n'y aura plus... plus de vie après. Non, non. Aujourd'hui, on parle de chances de guérison et c'est pour ça que l'on va se battre tout le mois, là, tout le mois d'octobre et les mois suivants pour dire, bien non, voilà, nous, on travaille dans un espace ressources cancer et des objectifs, vous en avez, vous en aurez encore et continuez à vous battre, en fait.
Vous l'avez mentionné, tout le monde ne répond pas à cet appel au dépistage. Est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être de se mettre la puce à l'oreille sur une possible anomalie, je ne sais pas, en termes de palpation ou ce genre de choses?
On reste vigilant aujourd'hui sur le terrain en disant qu'effectivement il y a l'autopalpation. Mais en aucun cas l'autopalpation va remplacer la mammographie. Le dépistage organisé concerne les 50-74 ans. Lorsqu'il y a un risque dans la famille, la mammographie sera prescrite par les médecins spécialistes en amont. Et ça, il faut aussi le garder en tête. Maintenant, effectivement, le prendre bien soin de soi et de sa santé passe aussi par différentes choses. Et donc, il faut aussi apprendre à connaître son corps, à s'autopalper. Alors, sincèrement, lorsque j'en parle, moi, sur le terrain, et même moi, personnellement, parce que moi, j'en parle, mais se regarder nu face à un miroir et s'autopalper, ben, parfois, c'est pas facile. Donc, aujourd'hui, vous pouvez assez facilement retrouver des liens sur les sites internet, savoir comment s'autopalper. Il est important de le faire au moins une fois par mois, même une fois tous les deux mois. Cet acte ne remplace pas non plus l'autopalpation, que fait le gynécologue ou la sage-femme ou le médecin généraliste ou autre. Ça se fait à quelques jours d'intervalle des règles. L'autopalpation est très importante, donc face au miroir, on apprend aussi à regarder ses seins face au miroir, voir s'il n'y a pas un écoulement, pas une grosseur, une rougeur qui apparaît. Et l'autopalpation, vous pouvez le faire assez facilement sous la douche ou autre, mais aussi chez vous aussi, messieurs, en fait. Hein, vous pouvez aussi vous autopalper parce que la pathologie du cancer du sein concerne également les messieurs, même si le taux est très, très faible. Protégeons-nous tous, en fait.
Y a-t-il des endroits où l'on peut se faire dépister toute l'année sans avoir été appelé en particulier?
En fait, il y a des centres d'imagerie un petit peu partout sur le territoire. Hein. Donc, il me semble qu'on a à Lillers, à Beuvry, si on s'éloigne un petit peu, à Neuilly-les-Mines, à Bully-les-Mines. Il y a vraiment plusieurs centres qui sont autorisés et agréés à réaliser le dépistage sur le territoire. Hein. Vous avez tout à l'heure Laetitia parlait du CRCDC. C'est vraiment l'organisme qui envoie le courrier aux femmes de 50-74 ans pour le dépistage. Et vous avez en fait la possibilité d'avoir accès à une liste d'établissements qui vous permettent de réaliser la mammographie. Alors, si je peux revenir un petit peu sur l'aspect mammographie, en fait, c'est vrai que, alors, encore une fois, moi, je suis un homme, j'ai jamais fait de mammographie, je sais pas si ça fait mal. Clairement, c'est pas agréable, c'est une compression du sein. Hein, mais en fait, cette compression permet vraiment d'avoir des clichés de bonne qualité. Et potentiellement, au plus la compression sera importante, et au moins on va utiliser de rayon X aussi. Donc il y a vraiment cette part de bénéfice-risque et de, oui, un mauvais moment à passer, un moment qui est de plus en plus court, parce que les techniques évoluent aussi hein, en termes justement d'appareils qui sont utilisés pour réaliser les mammographies. Et je dirais que même par rapport aux traitements, ce sont aussi des choses qui évoluent beaucoup, notamment dans le cancer du sein. Les traitements qui sont apportés sur des cancers qui sont découverts très précocement ont beaucoup d'issues positives, c'est-à-dire qu'on guérit aujourd'hui d'un cancer du sein grâce à la détection précoce, grâce aux traitements qui sont mis en place rapidement.
Depuis tout à l'heure, on parle de dépistage. L'association Prévart, pour Prévention Artois, mène surtout des actions justement de prévention. Comment est-ce qu'on prévoit l'arrivée d'un cancer du sein? Quels sont les bons comportements à avoir?
Alors globalement, je pense qu'on est sur de la prévention générale de tous les cancers en adoptant des comportements qui sont bénéfiques pour la santé qu'elle soit physique, psychologique ou sociale. Hein. Donc il y a vraiment ces trois aspects. Ça passe par une attention particulière prêtée à l'alimentation, une attention aussi à l'activité physique adaptée, qui est quand même un facteur de risque qui est très protecteur justement de l'apparition de cancer. Ça passe aussi par les liens sociaux, le fait aussi d'avoir une activité en fait, hein, de bien bouger, de bien manger, de bien être ensemble en fait dans un environnement, on va dire, favorable à la santé, qui permet aussi justement de prévenir de l'apparition de cancer. Maintenant, encore une fois, on connaît tous hein, des personnes qui n'ont jamais fumé, qui ont été touchées par un cancer du poumon. Enfin voilà, il y a forcément d'autres facteurs qui entrent en jeu, notamment des facteurs génétiques hein, contre lesquels il est difficile de se prémunir. Mais en tout cas, si on veut effectivement mettre les chances de son côté, en termes d'alimentation, en termes d'activité physique et d'activité au quotidien, il y a des choses effectivement qu'on peut mettre en place pour se préserver.
Quelles sont les actions de l'association Prévart liées au cancer du sein toute l'année et pour le mois d'octobre rose?
Prévart n'est pas forcément à l'initiative d'une action, mais on est partenaire. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent pour mettre en lumière justement le dépistage du cancer du sein. Alors, à Prévart, toute l'année, globalement, nous, ce qu'on propose, c'est l'espace ressources cancer, donc qui est un endroit où on va proposer ce qu'on appelle des soins oncologiques de support, donc pour des personnes qui sont touchées par la maladie et pour leurs proches. Et ça consiste en un accompagnement autour de l'alimentation, autour de l'activité physique adaptée, du soutien. Alors soutien, ça peut être soutien psychologique, mais ça peut être aussi soutien administratif, parce que on entre aussi dans des phases qui sont compliquées aussi à gérer pour les personnes. Et globalement, hein, sur la file active des personnes qu'on rencontre à l'espace ressources cancer, on a un petit peu plus de la moitié des personnes qui sont touchées par un cancer du sein.
Le rôle que nous avons, Delphine, ma collègue et moi-même, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, d'écoute et de soutien. Avant tout, lorsqu'on reçoit la personne, on va prendre en charge la personne dans sa globalité, en prenant en compte son histoire de vie et comment elle a vécu la maladie et où elle en est, elle, par rapport à la maladie, et en prenant en compte aussi la sphère familiale. Et là, de là, va arriver un peu le moment où on va évoquer les soins oncologiques de support afin que la personne se sentent au mieux avec ce qu'elles supportent, avec la maladie, tout ce que ça engendre, et qu'elles prennent du recul et de la hauteur par rapport à ça, et qu'elles puissent avancer et continuer à avoir des projets. Donc soit par le dessin, à travers l'art thérapie, les groupes d'échange, les ateliers avec la socio-esthéticienne, qui permettront en fait aux personnes d'avoir des conseils quant à la peau, quelle crème utiliser, le maquillage, se regarder dans le miroir. Parfois c'est difficile de se regarder dans le miroir, d'ailleurs qu'on ait la pathologie ou pas, hein. Parfois c'est compliqué. Et bien voilà, de retrouver aussi le sourire parfois et se sentir mieux.
Est-ce qu'au fil des années, tous les deux, vous avez constaté une évolution du regard des gens sur cette maladie ?
C'est vrai qu'on a encore un ancrage des croyances quand même très, très négatives en fait, hein, autour du cancer, avec des personnes qui ne souhaitent pas forcément évoquer la pathologie avec leurs proches. Alors quand elles arrivent à l'exprimer avec nous, je dirais que c'est déjà une petite victoire et ça leur permet quand même d'avancer. Mais il y a quand même une croyance populaire autour de la maladie qui fait que il y a souvent quand même un silence en fait. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle cancer en prononçant le mot cancer. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est simple, mais ça existe, il faut en parler, il faut que les personnes qui ont besoin de renseignements, ont besoin d'informations ou qui sont touchées puissent aussi évoquer ça. C'est aussi hein, l'essence aussi, je pense, du dispositif Espace Ressources Cancer pour que justement on puisse être un point d'interaction entre la personne et ce cancer ou ce potentiel cancer. Enfin voilà, vraiment avoir ce lien en fait pour pouvoir accompagner la personne, accompagner les partenaires vraiment dans leur globalité et pouvoir favoriser vraiment le mieux-être et la vie quoi finalement.
Tous les deux, ça fait quelques années maintenant que nous travaillons à l'espace ressources cancer. on a vraiment vu une nette évolution, même par rapport au traitement. Il y a une nette évolution par rapport à la chimiothérapie, à la radiothérapie, à l'hormonothérapie. Il n'y a pas à avoir honte, en fait, d'avoir la pathologie du cancer aujourd'hui, d'avoir honte et d'avoir peur du regard des autres aussi. L'espace ressources cancer va aussi permettre ça. Osez.
Retrouvez toutes les informations sur l'association Prévention Artois et les événements Octobre Rose auxquels ils sont reliés sur le site prévart.fr ainsi que la page Facebook Prévention Artois Prévart. Des événements liés à Octobre Rose ont à coup sûr lieu près de chez vous en région Hauts-de-France, alors n'hésitez pas à les chercher et à vous mobiliser contre le cancer du sein. Ce reportage a été réalisé pour Banquise FM. Interview Vincent Frémaux, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Saboom, la matinale de Radio Boomerang en collaboration avec 600 Productions. Il est 8h31 et donc on vient de s'écouter I'm Gonna Be Alright de Jennifer Lopez. On reste dans la musique, je vais trouver les mots, tout va bien se passer.
On reste dans la musique, point.
Découverte musicale de la semaine avec Solana. Je lance le jingle fabuleux que nous avons. Et ensuite, Solana, c'est à toi.
La découverte musicale de la semaine par Solana Grèce.
Je pense qu'à la fin de ce morceau, ce sera du grand n'importe quoi.
Alors, cette semaine, je vais vous parler de Mandy Spy. Quand bien même, j'ai pas eu le bon jingle, c'est pas grave. Je me lance. Let's go. Let's go.
Même les jingles, ils sont fatigués ce matin.
Non, mais c'est pas grave. Oh là là. Mandy Spy, dont on va s'écouter un morceau qui a été clippé là cet été. Donc, c'est une artiste à la double nationalité franco-canadienne. Mandy Spy, elle grandit à Montréal, puis elle passe son adolescence en France dans le 9-3, où elle va se rapprocher du rap. Elle fait ses premiers pas dans la musique sur SoundCloud, comme beaucoup d'artistes, avec des compositions aux références nord-américaines, assimilées à son langage des banlieues parisiennes. Mandy Spy propose un style avant-gardiste, versatile, elle alterne entre les ambiances et les styles, de morceaux plus mélancoliques et combatifs à des phrases plus dans la légèreté et l'ironie. Mandy Spy apporte notamment sa touche par le biais de visuels aux références multiples tirées du cinéma ou du jeu vidéo. Elle se démarque par un univers complet, balançant entre clarté et obscurité. Et d'ailleurs, si vous la suivez sur Insta, vous verrez qu'elle a un compte qui est dédié à ses créations d'illustrations numériques qui sont super fun.
Super stylé.
Je vous conseille à fond. Du coup, je vous propose qu'on s'écoute un morceau.
Yes.
Donc on va s'écouter Parasité, dont les prods ont été faits par Johnny de Zix et Ninjin.
Ouais, j'aurais prononcé comme ça.
Ouais, je sais pas trop des fois. Il faudrait les sous-titres, les artistes, s'il vous plaît.
On s'écoute Parasité de Mandy.
C'était Mandy Spy et vous la retrouverez sur Ici Demain Festival à FGO Barbara le 24 novembre prochain si vous avez apprécié.
Voilà, trop bien. Du coup, en plus, on est dans les temps, on fait la pub, même des artistes, des découvertes musicales, tu vois, petit à petit, quoi.
Ouais, on est chaud, on reprend chaud. Un rythme tel que l'année dernière, petit à petit.
Écoute, Solana, en parlant de musique, moi, j'avais envie de faire le petit point pop culture de la semaine.
À fond.
Cette chronique, elle commence tout doucement, voilà, on est un petit peu... j'en ai fait une la semaine dernière sur Taylor Swift, parce que forcément, on change pas une équipe qui gagne, pour le coup. Je suis obligée de mettre mon moment un peu... corporate de Swiftie, mais cette semaine du coup je voulais parler de Britney Spears. Alors cette semaine elle sort un livre, donc qui est ses mémoires tout simplement. Ça s'appelle simplement Britney Spears. Ça s'appelle The Woman in Me et elle y raconte donc sa vérité. Hein, c'est ce qu'elle dit. Elle y aborde entre autres donc sa tutelle qui a duré de 2008 à 2021. Donc pour rappel c'est son père en fait qui était en charge de toutes ses décisions financière et perso et autres. Elle parle aussi de sa relation avec le chanteur Justin Timberlake ou encore de son enfance chez Disney. Donc beaucoup de révélations et de souvenirs douloureux sont abordés. Elle a annoncé au magazine People que revivre tout ça était déchirant et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle ne lira pas l'entièreté de son livre audio, c'est elle qui le dit. C'est l'actrice Michelle Williams qui lira le reste parce que c'est trop dur pour elle de relire en plus d'avoir eu ce moment de déchirant d'écriture à la base. Alors je sais pas, il me semble qu'elle a un ghostwriter mais bon.
Ah ça je sais pas.
Je pense. Par ailleurs, donc le livre est déjà en tête des ventes sur Amazon en précommande. Il sort demain, donc le 24 octobre 2023. Et en France, il sort aux éditions Jean-Claude Lattès. On s'écoutera donc juste après son morceau Every Time. C'est une chanson qui a attiré, très connue, mais qui a en plus attiré l'attention des fans sur les réseaux sociaux parce que depuis certaines révélations, il a pris en fait un tout autre sens. Dans son livre, Britney raconte qu'elle est tombée enceinte de Justin Timberlake et qu'elle a dû avorter parce qu'il ne voulait pas être père. Certains fans du coup spéculent sur le fait que les paroles, que je vais donc traduire ici en français, où elle dit « Je te vois dans mes rêves, je vois ton visage, tu me hantes, j'imagine que j'ai besoin de toi mon bébé », ne parle pas d'un ex mais plutôt d'un bébé donc, qu'elle a perdu lors de son avortement. Le clip de la chanson dans lequel on voit la chanteuse poser devant une mère qui accouche à l'hôpital va d'ailleurs donc dans le sens de cette théorie.
Ah ouais, carrément.
Est-ce que t'étais au courant de cette sortie ? T'as vu un peu passer ça sur les réseaux ?
J'ai pas du tout vu passer ça sur les réseaux. Après, je pense que selon aussi ce que tu suis, t'as pas tout à fait les mêmes choses qui apparaissent. D'autant que j'aime bien la pop, hein, mais je suis pas une fanzouze de pop.
Une fanzouze ?
du coup, j'avoue, j'ai pas beaucoup d'informations qui concerne la pop qui passe sur mes réseaux perso. Ceci dit, Britney Spears, c'est quand même un personnage que j'apprécie particulièrement, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, avec qui j'ai grandi, comme je pense beaucoup.
Ouais, beaucoup de jeunes de nos âges.
Et tu vois, ce que tu as mis en lumière sur quelques moments de son parcours qui ont été quand même assez douloureux pour elle et décisifs au final aussi dans l'évolution de sa carrière. C'est des choses que je savais et j'ai notamment vu un documentaire, il me semble, portant justement sur sa tutelle qui avait été fait par un youtubeur ou une youtubeuse, je sais plus. Enfin, c'est un documentaire du coup à relativiser.
Ouais. sur YouTube, quoi.
Bon, voilà, un documentaire version YouTube. Mais pour autant, ça avait été très intéressant et même très inquiétant de voir ce qui s'est passé avec cette histoire de tutelle. Et je trouve que c'est vraiment l'illustration, une fois de plus, de la domination des hommes qui se fait sur les femmes. Le fait qu'elle ait été instrumentalisée et qu'elle soit devenue juste une machine à fric, en fait.
Ouais, c'est ça, pendant presque 15 ans, quoi. C'est son père qui a pris toutes ses décisions. Je sais pas si on se rend compte.
C'est vraiment un truc de ouf. Puis, enfin, 15 ans, à une époque de sa vie où elle était quand même déjà bien, bien adulte. C'est pas comme si elle était 15 ans dans sa jeunesse. Mm-hmm. C'est vraiment 15 ans, une fois où elle a déjà mis en place un maximum de choses dans son quotidien, et sur sa carrière.
Et où, en plus d'être adulte, elle était quand même à un moment de sa carrière où elle avait fait pas mal d'argent, une grosse reconnaissance au niveau du public, donc c'est vraiment laisser toutes ces décisions dans les mains du coup d'un homme, en l'occurrence là son père, mais vu les intentions qu'il y avait derrière, en tout cas de ce qu'on a pu entendre lire dans les reportages et donc ce dont elle parle dans son livre aussi, il avait pas les meilleures intentions du monde non plus, donc
non, j'ai l'impression qu'il n'était mu que par l'appât du gain, clairement.
Mais il y a ça sur toute sa famille en plus, je crois qu'il y a aussi des trucs avec avec sa sœur qui était du coup totalement d'accord avec son père et qui continue aujourd'hui de lancer des trucs sur sa sœur, sur les réseaux.
Ouais, de la faire passer elle pour une folle. Ouais, ouais. Mais en même temps, enfin, c'est un truc de ouf. Dès qu'une femme est un peu puissante et un peu de lumière sur elle, il faut qu'elle soit folle. En fait, elle ne peut pas être saine.
C'est ce que j'avais envie de. C'est là où j'avais envie d'étendre le truc, c'est que on dirait un peu les histoires de chasse aux sorcières, genre ah oui, la meuf, elle peut pas juste être fatiguée puis savoir que pendant toute sa carrière, elle a été utilisée à Disney. Moi, j'avais vu aussi un documentaire, je crois que c'était pareil, c'était un documentaire YouTube, donc pareil, à relativiser.
Voilà, grande qualité YouTube.
Mais y a des trucs qui sont très bien faits, cependant.
Ah oui, non, mais bien sûr, et c'est à relativiser parce qu'il y a quand même aussi un peu de subjectivité dans ces, dans ces documentaires, c'est-à-dire que youtubeuses, youtubeurs ont tendance quand même à donner leur avis et à aborder les informations depuis un angle qui leur convienne.
Tout à fait.
Et c'est ce en quoi il faut relativiser, mais ça n'enlève pas la qualité des informations qui peuvent être relayées via ce type de doc.
C'est ça, et le fait qu'elle était vue comme une folle depuis le début de sa carrière, en sachant que en plus, enfin depuis le début, à relativiser en fait, au bout d'un moment, surtout au niveau, enfin c'était plutôt en 2007 quand elle s'est rasé le crâne, ouais. Je crois que ça a été le moment, le tournant,
le climax de la folie.
C'est ça, et j'ai lu du coup sur les réseaux, il y a des passages en fait de son livre qui ont été du coup postés en avant-première,
ouais.
Où elle disait que c'était en fait pour elle, une façon de reprendre
le contrôle
sur son corps image. Et ouais. Sur son image, et de dire en fait, j'ai plus envie d'être désirable, j'ai plus envie de que les gens me voient d'une certaine façon. C'est juste elle disait en gros, c'est ma manière à moi de dire allez tout vous faire foutre, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et ce qui s'entend totalement, et de savoir que pendant autant d'années, elle soit restée dans le silence,
c'est clair. Alors
c'est
que
faux, je trouve.
Elle a été, je pense. Je saurais pas trop bien situer si elle a été vraiment à l'avant-garde de ces femmes de la pop qui ont été objectifiées sexuellement parlant, vraiment au maximum dans toutes les déclinaisons possibles en fait, que ce soit dans la diffusion, que ce soit dans la direction artistique des clips, que ce soit même au niveau des fois des paroles, souvent même des paroles pas forcément écrites par les interprètes. Ça aussi c'est un truc qu'on n'a pas forcément toujours en tête, mais les artistes n'écrivent pas toujours leurs sons, et du coup on leur fait dire des fois un peu ce qu'on veut selon qui a écrit. Et c'est quelque chose qui avait été vachement mis en lumière, je crois, pour France Gall, il me semble, à qui on a fait chanter des trucs, what the fuck,
ouais.
Vis-à-vis de la condition des femmes et vis-à-vis du fait que du coup c'est une femme en plus qui le chante, c'était... Et je pense qu'on peut tout à fait retrouver ce genre de dynamique sur le profil de Britney Spears.
Ah ouais, c'est clair. Puis si on regarde à la loupe, de toute façon, le nombre de meufs à qui on fait chanter des trucs et qui sont pas de leur ressort. Puis en plus, Britney Spears, elle a commencé chez Disney aussi. Donc c'est quand même une entreprise qui prend beaucoup de décisions à la place de l'artiste. En général, et surtout chez des très jeunes artistes qui, en général, passent une bonne partie de leur carrière chez Disney et qui, du coup, n'ont pas du tout de pouvoir décisionnel sur ce qu'ils font de leur carrière. Et il y a plein de particulièrement de meufs, quand même, qui ont commencé chez Disney, qui, après, ont galéré. Je pensais à Miley Cyrus,
qui a fait un craquage un peu du même genre que Britney Spears en public et qui a voulu complètement dézinguer l'image de jeune fille parfaite qu'on lui avait collé via Disney, quoi.
Parce que c'est impossible de s'en sortir autrement. Après, j'avais lu des trucs qui disaient des trucs.
Mais c'est Selena Gomez, Demi Lovato, toutes.
Oui, fait, toutes.
Elles ont pété des câbles après Disney.
Mais qui disaient que Miley Cyrus, elle était en fait consciente de ce qu'elle faisait et qu'en fait, c'était vraiment pas un pétage de câble, et que parfois elle arrivait sur des plateaux en faisant semblant pour le public qu'elle était totalement bourrée ou autre, et qu'en fait, elle l'était pas du tout et que ça faisait totalement partie.
C'était
de...
C'était pour le buzz, quoi.
Voilà. Ça faisait partie, en gros, de... C'était un peu son Britney 2007 à elle, de dire je veux me redéfinir vis-à-vis du public, j'en ai marre d'être la petite fille gentille de Disney, et du coup il n'y a pas d'autre façon que de passer par là et de dire, je peux faire autre chose, et en fait, au final, ça... En vrai, si on regarde avec le recul qu'on peut avoir maintenant sur la carrière de Miley Cyrus et tout ce qu'elle a fait depuis, ça l'a quand même bien sorti de l'image de Disney de faire ça, parce qu'au final, maintenant, si tu penses Miley Cyrus, je pense qu'il y en a plein qui voient plus du tout sa carrière en mode, bah, c'est la... je pense qu'il y a certaines personnes qui savent même pas qu'elle a fait Hannah Montana à la base.
Oui, c'est possible qu'aujourd'hui, elle ait réussi à quand même créer tout son univers artistique autour de ses chansons, avec son nom propre, Miley Cyrus, qui a complètement peut-être effacé Hannah Montana.
C'était le but, je pense.
Je me permets de revenir vite fait sur ce que j'ai dit vis-à-vis de France Gall pour l'illustrer, ouais. Parce que j'ai pensé à Poupée de cire, Poupée de son, ouais. Quand j'ai dit France Gall tout à l'heure, et là, je me suis mis les paroles sous les yeux. Et oui, c'est hardcore. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon ? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupée de cire, poupée de son.
Alors si, oui... Et si je peux me permettre, j'ai tapé parce que j'étais plus sûre si c'était France Gall qui chantait ça.
Oui, voilà, moi aussi, c'est pour ça que je l'ai tapé. Il me semble que c'est France Gall, Poupée de cire, Poupée de son, et je sais que c'est pas elle qui l'a écrit.
Il y en a une autre pire qui est Annie aime les sucettes.
Oui.
Qui a été écrite, bien si sûr. Je m'abuse, par Serge Gainsbourg.
Oui, tout à fait. Mais Serge Gainsbourg, horrible personnage. Arrêtons de le mettre sur un piédestal. Je ne supporte plus cet homme.
Petit aparté, effectivement. Où les paroles sont pires. Et, alors,
c'est les sucettes à l'Annie.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai vu une info. Alors, pareil, à prendre avec des pincettes parce que je ne suis plus capable de donner la source de où j'ai trouvé cette info. Mais je la lance comme ça dans l'univers.
Ça va impliquer Charlotte, ça.
C'est que France Gall, visiblement, n'avait pas compris le double sens derrière la chanson « Annie aime les sucettes ». Et que quand elle l'a appris, elle était dégoûtée et qu'elle n'arrivait plus à sortir de chez elle parce qu'elle s'est rendue compte que Serge Gainsbourg lui avait donné une chanson qui était un peu à double sens, un peu
dégueulasse. Ouais, tout à fait. Bah, comme d'hab, Serge Gainsbourg, qu'est-ce qu'il a pas fait qu'il soit pas dégueu, enfin, je suis désolée, le mec, il a quand même tourné des films avec sa fille préadolescente dans un lit.
Ah ouais,
enfin, non, c'est un clip. Mais oui, ah oui, mais oui, 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 il a vraiment fait un clip avec Charlotte Gainsbourg qui a, je sais pas, 13 ans, et ils sont dans un lit, et il a des paroles qui sont littéralement à double sens, entre « je t'aime mon enfant » et « j'ai envie de te manger mon enfant », tu vois, mais manger sexuellement parlant. Donc, vraiment, hardcore sa mère.
Et je viens de vérifier, il me semblait qu'elle était très jeune aussi, France Gall. Donc, la chanson est sortie en 1966, et elle est née en 48, donc elle avait 19 piges.
Non, donc, mais voilà. C'était une enfant manipulée, une de plus. Enfin, c'est ouf parce que Gainsbourg, il avait quel âge à cet âge-là? Il avait quel âge à cet âge-là? Bien, bien.
Il est né en 28, donc il a 20 ans de plus qu'elle, quoi. Donc il avait 40
piges. Sans déconner, le mec, il a 40 piges. Il écrit une chanson à double sens pour une minette de 19 ans. Sans aucune. Mais waouh, ça me terrasse.
Ah non, c'est fou, c'est fou. Donc oui, c'est pas vraiment, enfin c'est pas du tout nouveau les jeunes filles qui doivent et qui sont dans l'industrie et qui lisent, enfin qui sont interprètes de chansons qu'elles n'ont pas du tout écrites et qui parfois sont humiliantes qui sont humiliantes point. Je cherchais d'autres mots, mais en fait oui, c'est juste humiliant. Et puis c'est ni la seule, ni la première, ni la dernière. Donc
on aimerait bien se dire que c'est la dernière, mais
Ouais, bon, en 66, il y a eu un gros run de plein d'autres meufs, c'est je pense, clair. Entre-temps. Et bien, du coup, je vous propose qu'on s'écoute Everytime de Britney Spears, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Et puis, pour celles et ceux qui comprennent l'anglais, je vous invite à écouter les paroles et du coup, le double sens qui peut s'y trouver. En fait, on a l'impression... Enfin, après, c'est une spéculation des fans, donc on va pas trop se lancer dans le truc, mais la sortie de la chanson concorde à peu près à la période où elle a vécu cet avortement. Et les paroles peuvent faire penser à ça. Et le clip, effectivement, donc, du coup, que je vous invite à regarder. Alors, la radio est un média sur lequel on ne peut pas vous montrer de vidéo. Donc, je vous invite à regarder de votre côté le clip dans lequel on la voit devant une chambre d'hôpital avec une femme qui accouche et une famille heureuse qui peut faire penser, effectivement, les paroles ont ce double sens-là et qu'elle renvoie à cette expérience qu'elle a eue.
Est-ce qu'elle a eu des enfants ?
Ouais, elle a eu des enfants, mais par contre, il me semble qu'avec la tutelle, elle a pas du tout. Enfin, elle pouvait pas du tout.
Elle avait pas le droit de s'en occuper, quoi.
Voilà, elle avait pas le droit de s'en occuper. Nickel. Et qu'elle avait aucun pouvoir décisionnaire sur, bah, sur ses enfants, quoi.
Ah bah, c'est super.
Donc, voilà. Et il me semble d'ailleurs que maintenant, elle a une assez mauvaise relation avec ses enfants.
Bah, en même temps, si on l'a coupée de ses enfants, qu'elle a pas pu construire de relation avec eux.
Ouais, c'est ça, mais il me semble
pas de quoi s'étonner.
Enfin, il lui lance un peu des pics sur les réseaux et autres. Alors après, les histoires de famille.
Mais il y en a plein. Personne, est comme ouais. Ça, c'était le fils de Madonna qui avait mis dans sa bio Insta, fils de pute.
Fait.
Non mais vraiment, il avait vraiment fait ça, ça avait fait un gros scandale.
Ah ouais, quand même.
Genre le mec avait mis dans sa bio fils de pute alors que bah voilà, sa mère c'est Madonna, au calme. Non mais genre vraiment.
C'est très précis.
Et les problèmes familiaux n'ont pas de limite, voilà.
Ah ouais, effectivement. Oh mon Dieu. Bah, je vois quand même qu'il est 8h51, donc en fait, bah, ça va être la dernière chanson qu'on va se passer, et on va peut-être se dire au revoir avant, d'ailleurs. Vous pourrez retrouver, du coup, juste après Bernard dans son émission. Bah, merci de nous avoir écoutés dans cette matinale, encore une fois. On se retrouve donc mardi prochain.
Même endroit.
Même heure, même endroit, hein, ouais.
Même météo doit mouiller, bon, là, je vous dis, il fait gris. Hein.
Là, il fait gris, donc, voilà, on commence la journée.
Il fait plus nuit, mais il fait gris, bon, voilà.
On passe de l'un à l'autre, et écoutez, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas de pouvoir sur la météo.
Ah non, 23 octobre, on fait comme on peut.
Solana, un petit mot de la fin ?
N'hésitez pas à vous renseigner sur Mandy Spy et à aller voir ses illustrations numériques en plus de ce qu'elle fait vocalement parlant, parce que c'est vraiment une esthétique très très chouette.
Qui ressemble à des petits Pokémon.
Ouais,
j'adore. On a regardé ça pendant la pause musicale.
Grave.
Très sympa. Voilà, donc on se lance Everytime de Britney Spears, et puis je vous souhaite une excellente journée. Restez connectés parce qu'il y a Bernard juste après avec son émission. À la semaine prochaine. Gros bisous. Merci.
Soon your face will